culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Parmi les très grandes revues littéraires de langue française, qui après la Première Guerre mondiale irriguèrent la pensée et la création contemporaine, la Lanterne Sourde fut l'expression d'un des groupes artistiques des plus novateurs. Sa première parution en décembre 1921 affichait fièrement sa devise « Art et liberté ». Dessins, photographies, articles savants et critiques, la revue invitait également des personnalités comme Paul Valéry, Éric Satie ou encore Louis Jouvet. Un des poètes incontournables de ce groupe et de sa revue est sans conteste le Belge Robert Goffin. Résistant, il put gagner les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale et publia à New York son fameux « Passeport pour l'au-delà ». Cette émission, qui date de 1967, permet de retrouver ou de faire connaissance avec un homme et une œuvre qui ont marqué avec bonheur la littérature belge.
Écrivains étrangers d'expression française, une émission de Jean Paget. Aujourd'hui, Robert Goffin, avec François Perrier, Bernard Noël et Jean Levray.
Robert Goffin, vous avez beaucoup voyagé, vous êtes belge, vous êtes poète, et je voudrais savoir comment vous êtes venu du métier d'avocat, qui était le vôtre, à la vocation de poète.
Mais je crois plutôt que c'est le contraire, car j'ai l'impression que j'étais poète avant d'être avocat. En effet, j'ai publié mon premier livre de poèmes quand j'avais 17 ou 18 ans. Des poèmes, je dois vous le dire, je dois vous le confesser, sous l'influence de sa main à ce moment. Car j'étais en Belgique, c'était pendant la guerre, je ne connaissais encore que sa main. Et puis tout d'un coup, j'ai lu une anthologie de Séché, les plus beaux vers de 1912 ou de 1913, dans lesquels j'ai lu deux poèmes ou trois poèmes d'Apollinaire et deux ou trois poèmes de Romain. Alors j'ai été pris par cela, j'ai publié immédiatement quelque chose qui m'a ému beaucoup, c'était des nouveaux poèmes qui étaient sous l'influence d'Apollinaire et de Jules Romain. Et comme en même temps venait d'arriver le jazz, que je venais d'entendre, j'ai appelé mon livre Jazz Band. Et c'est assez bizarre, car ce premier air de jazz, je l'avais entendu des lèvres d'un soldat canadien qui était engagé avec les Anglais à ce moment, c'était après la guerre de 14, vers 18. Et il avait chanté le premier ragtime que j'entendais. Je trouvais ça très épatant, car c'était quelque chose de neuf pour moi. Et comme j'aimais déjà les nouvelles poésies, je trouvais que ces deux choses allaient ensemble. Et c'était un ragtime de Robinson Crusoe. Et puis, si vous voulez encore des souvenirs à cette occasion-là, ce soldat avait une sœur qui était très très belle. Il me montrait les photos. Elle s'appelait Gladys Smith. Et elle habitait à Toronto. Et elle m'écrivait. À ce moment-là, j'échangeais des lettres d'amour. Et puis un beau jour, l'intéressée a interrompu de m'écrire. Elle était partie pour Hollywood où elle allait devenir Mary Pickford. Vous voyez que ça date de très très loin.
Ce passage de basse teinté de cafard et d'agonie a beaucoup voyagé. Sur quelques notes boiteuses aux lèvres biliaires des esclaves noirs, colère centrifuge de la biguine, de la rumba et de la machiche. brouet musical d'une race maudite sur les sentiers de la liberté, fébrile martèlement de la danse congolaise du léopard rythme, en voyage vers une levée américaine, jusqu'à ce que Handy. Tu es venu par les îles soulevant avec les générations à cajou, cheveux crépus, dents blanches pour le baiser des femmes aux hanches étroites, en route avec les aventuriers, mélopés aux fers inhumains de la cale, quelques heures dans un village glauque au fond d'une jungle d'Amérique centrale, horizon bordé de dentelles vertes qui poussent à vue d'œil, les bambous bleus baigne dans une broderie de boue arc-en-ciel. En route. Le rythme s'enfonce dans la vase à chaque pas. Les maringouins et le choléra. Musique épurée par les fers rouges d'un blême soleil d'enfer. Le tam-tam marche lentement de son même pas vers le Pacifique. Les villages indigènes sifflent avec toi derrière les palmiers et les cocotiers. Tous les yeux, entre le mimosa et les canaris de la fièvre typhoïde. Tu pagayes tandis que le chercheur d'or sommeille sous le palanquin. Un tronc d'arbre coiffé d'un caïman envoûté suit le sillage. Une fauvette irisée t'accompagne dans les indigotiers délirants. Les éponges de jasmin cardinalis bordent des barrages de charognes violettes. Encore 500 kilomètres de liliacées. En route, les sons s'infléchissent. À chaque coup de rame, tu ramènes des arpèges d'arborescence boueuse. Les pumas pleurent leur crinière de lion oublié de l'autre côté du monde. Tous les villages noirs dansent dans la nuit savonneuse sur cette air revenu de loin. Les lèvres ne s'interrompent que pour baiser des bouches de négresse cuites.
Chambre profonde avec des femmes, avec des rutes et les désirs accrus par l'énorme tapage d'un pianola mécanique. Carmen était assise seule. Paula riait avec Mireille. Et dans un coin, près du comptoir, une autre soupesait ses seins. C'est ainsi que je vous ai vu sur les limites de la nuit et du jour qui la repoussait à grands coups de lumière claire. Par-delà les murs sans fenêtres, c'était un matin plein de fleurs, et les pieds de ceux qui passaient pesaient peu au trottoir d'en face. Par-delà, c'était le soleil. Ici, la nuit était entière, neutralisée par l'éclat fade des becs de gaz qui chantonnaient. C'était la nuit dans le matin, avec des femmes dévêtues qui offraient leurs bouches plâtrées à nous deux, qui n'écoutions pas.
Et cette envie de voyager vous est venue du fait d'avoir connu cette Canadienne qui est devenue Mary Pickford?
C'est-à-dire que ce n'est pas de cela même. J'ai toujours eu la notion de ce que c'était que le dépaysement. De même, les poètes de ma génération, qu'ils soient Cendrars ou qu'ils soient Larbeau, vivaient de la notion de voyage, de la notion de mouvement. J'ai aussi vécu de cela et j'ai toujours désiré beaucoup voyager. Je l'ai fait, mais beaucoup plus tard, car j'ai eu une jeunesse dure. J'ai dû gagner ma vie pour faire mes études. J'ai été pion, j'étais maître d'études dans un athénée. Et c'est comme ça que j'ai invité Cendrars, que je connaissais à peine, à venir faire une conférence à Bruxelles.
Mais pour en revenir alors au jazz, il y a eu alors dans votre poésie l'influence du jazz, et puis également vous vous êtes préoccupé de choses qui sont tout à fait modernes, enfin je veux dire dans leur expression, c'est-à-dire des sports, et vous avez parlé de
oui,
ces choses.
Oui, pour le jazz, voici, n'est-ce pas, il y a eu une période, un décalage. J'ai fait ce livre de poèmes sur le jazz qui s'appelait Jazz Band, et puis je suis resté sûrement une dizaine d'années à écouter très souvent du jazz. Je suivais le jazz, j'ai même joué de la trompette avec des amis, avec notamment les deux frères Stockley qui avaient la plus belle maison de Bruxelles où nous allions régulièrement. Et j'étais devenu l'ami des Noirs, de Brix notamment, ce cher Arthur Brix avec qui j'ai joué, avec qui j'ai suivi et écouté tous les jazz. Et alors, j'ai écrit un livre qui a paru chez Simon Krah au Sagittaire vers 1930, mais qui avait déjà paru un peu auparavant, qui s'appelait « Aux frontières du jazz », où je racontais mes expériences.
Maintenant, je traverse seul Harlem, la capitale des ténèbres, un étrange ghetto. Au crépuscule, les hommes ont des gestes de proscrits. Les yeux humides défilent, des paumes roses, des tailles de guêpes. 350 000 noirs cernés dans les citadelles du mépris. J'entends ronronner les quenelles célestes des dirigeables militaires. J'entends sonner des talons sur le trottoir en ciment de Lenox Avenue. Ils ont des visages d'ébonites, de chapeaux melons ou de fonds de chaudière. Ils ont de belles cravates roses et des casquettes couleur de laitue. Ils ont renouvelé la poésie et inventé l'intoxication du jazz. De grandes filles café au lait préparent leurs lèvres d'églantine. L'eau de leur amour est plus limpide que celle des alcazars. On ouvre des chambres de chauffe et les hauts fourneaux nocturnes de la transe. Au Savoy, une extase religieuse va les transfigurer jusqu'au petit matin. Le rythme fleurit aux bouches roses et aux doigts bleus des musiciens. Harlem, avec ses trois lucarnes sur New York, la boxe, la musique et la danse, venez recharger les accumulateurs du rêve dans la douce Afrique de mon cœur. Un arraché rythmique des deux mains, démarrage foudroyant de Benny Carter. C'est l'instant de la danse de Saint-Guy des belles danseuses épileptiques. C'est l'instant d'un tour au verger dans les bras cacao d'un beau dandy. C'est l'instant des cuisses bronzées au soleil du Mississippi. C'est l'instant du swing, ce nouveau dieu de la poésie et de la musique.
A chocolate drop, that's me, 'cause my hair is curly, just because my teeth are pearly. Just because I always wear a smile, like to dress up in the latest style. 'Cause I'm glad I'm living, I take troubles all with a smile. Just because my color shaded, different maybe, that's why they call me.
Et alors les sports, bien sûr, à ce moment-là, j'étais un footballiste. Et puis j'ai suivi très souvent les courses cyclistes. J'adore les courses cyclistes. J'écris d'ailleurs un poème sur le Tour de France. J'ai suivi tous les grands matchs de boxe. J'étais à Paris quand Carpentier a été battu par Batlingsiki. Moi, j'aime ces émotions qui sont les émotions vivantes de la foule et des autres gens, comme la boxe, le patinage ou ces choses-là.
Dans les combats entrelardés d'embrocation et d'invective, crépitant comme la danse de Saint-Guy, le charleston ou le swing, j'ai vu fleurir les essuie-mains, les baisers et les esquives aux douches de 10 soleils arrosant la colophane des rings. C'était au lointain soir bariolé de ma jeunesse. J'entends encore les bonimenteurs et les marchands de tickets répondant aux cris des filles, aux grincements des pêcheresses qui sollicitaient De Vos ou Germain que l'on épongeait. Il y eut l'époque violente des kermesses à la Sept-Hélène. Dans un relent de graillons et de sueur, dès le bras levé de Carpentier, les mauvais garçons déliraient tandis que les demi-mondaines et les dames en perlouse hurlaient plus que les contrebandiers. Les foules bouleversées rugissaient d'un exaltant enthousiasme pendant les 3 minutes sacramentelles du noble pugilat, à coups d'uppercut et de swing jusqu'aux limites du spasme qui enfiévrait les hommes du milieu et les dames aux camélias. Ah, parlez-moi très cher de cette populacière éloquence, de l'aboyeur qui claironnant les noms et les titres les écorchait devant les premiers ronds, les spectateurs râlaient d'impatience, tandis que je supputais un direct de gauche entre les frères Stockley. Comme nous fûmes ensorcelés aux exploits des champions du monde, au temps de Jack Johnson ou quand Bombardier Wells fut vaincu quand l'arquebuse au magnésium du photographe éclatait à la ronde et que les populaires déchaînés psalmodiaient le mot « l'entrue ». Ah, rang Rendez-moi les luttes au finish qu'on voulait croire meurtrières, quand j'étais un client fidèle au temps du bon temps du Varia, dans ce faubourg où les pauvres, importés tout droit de la misère, à la force du poignet devenaient les idoles des grands galas. Je me retrouve surveillant les soigneurs aux angles des cordes, quand le gong sauvait les boxeurs groggy au championnat des moyens, ou quand l'arbitre d'un break qui implorait miséricorde essayait de séparer les rivaux, feutrant leurs coups de poing. Je pleurais un lointain matin devant la TSF tapageuse, quand j'appris que Jack Dempsey était demeuré champion. Et à Paris, avec mon ami, j'assistais aux luttes de la nuit fiévreuse, lorsque Battling Siki, vainqueur, fut hué par ceux des balcons. Au vélodrome, les matchs des Brantes et des Delarges étaient de brillants exercices. Mais que dire de celui où Arthur Wintz fut pilonné par Criqui ? À cette époque, j'allais le mardi soir au championnat des novices, à la rue de l'Étang, près du colonel et de Marcel Dupuis. Le temps n'est plus de ceux qui furent un peu de mes nuits fières. J'ai vu décliner Linertz, ancien champion belge des poids lourds, Montreuil, qui eut le titre européen, et celui qu'on nommait la Rapière, et Kit Francis, dont la garde est à jamais baissée pour toujours. Ainsi coulent les jours, les boxeurs et les belles filles. Voici longtemps j'étais au championnat d'Europe à Dortmund, quand l'adroit Zaes ne fut battu que par un arbitre de pacotille, et lorsque Olek, champion de France, s'effondra au 7e round.
No one talking, all by myself. No one talking, I'm happy on the show, babe. Ain't misbehaving, saving my love. I baby love you, feeling that love you. And I know it's saying, one I love, through it plain. You that I'm thinking of, ain't misbehaving, saving my love. Oh baby, my love for you.
Et alors pour en revenir aux musiciens de jazz, les rapports que vous avez eus avec eux, ce que eux vous ont apporté, certains, et ce que vous, vous leur avez apporté, quels sont ceux que vous avez connus et que pensent-ils de ce que vous avez écrit ?
Eh bien, je les ai connus tous, puisque je dois vous dire que j'avais pris violemment parti pour la France en 1940, lorsque la Belgique était neutre, et j'avais publié un journal pro-français contre les Allemands. Si bien que quand ils sont arrivés, j'ai dû m'enfuir. Et de ce fait-là, les Allemands arrivant en France, j'ai dû m'en aller en Espagne, et puis de là au Portugal, et j'ai été exilé en Amérique. Si bien que malgré moi, j'ai été dans le terrain où se trouvaient tous les joueurs de jazz, et alors je les ai tous rencontrés, Louis Armstrong, Duke Ellington, tous, sauf ceux qui étaient morts. Il y en avait deux grands, il y avait Bix Beiderbecke, et il y avait Jelly Roll Morton, que j'aurais aimé connaître. Mais je les ai tous connus, par exemple, Sidney Bechet. Très, très bien, j'ai été chez son frère, qui était dentiste à la Nouvelle-Orléans. Laissez-moi vous expliquer ça, si ça vous amuse. Je suis entré dans un endroit qui s'appelait les Champs-Élysées. C'est une espèce de rue qui n'était même pas pavée, avec des fossés où il y avait des chèvres qui broutaient. Et je suis entré chez Bechet, qui était le frère Léonard, qui jouait du trombone. Et il était dentiste. Alors nous nous sommes assis là, plusieurs, et il y avait les fauteuils où les patients vont habituellement. Et alors bientôt une patiente est arrivée, mais nous étions très ennuyés parce qu'il n'y avait qu'une chambre. Alors il a dit « Non, non, ne vous en occupez pas, nous allons continuer ». Alors ça s'est passé, il nous chantait de vieux blues, je tâchais de savoir quelles étaient les origines du blues. Et alors, la patiente était là et on entendait, par exemple, des choses comme celle-ci. « Alors, oui, j'ai connu un vieux blues, c'est la femme qui est sous le prunier. Ça allait un peu comme ceci. » Alors, on entendait « Il opérait la patiente qui hurlait et des choses comme celle-là. J'ai vécu d'ailleurs 6 mois à la Nouvelle-Orléans. J'ai rencontré à ce moment-là le dernier survivant de l'orchestre de Buddy Bolden, qui a été le premier orchestre au monde. Alors, j'ai rencontré, bien sûr, tous mes grands amis, tous ceux du Dixieland, par exemple. Je les voyais à ce moment-là. J'allais chez Nick dans le village, je les entendais jouer et je les entendais chanter.
Transhumant sa plume des cygnes noirs, enduit de nuit, Armstrong rêve sous ses yeux clos, hanté d'anges de la brousse. Didois chatouille les champs de coton de sa solitude. Il décoche les sauvagines de la transe. Et les femmes se taisent de bruit pour mieux voir la face phosphorescente du vieux sorcier bantou. Armstrong descend à la proue des bateaux de plaisir, larguant les voiles de sa trompette de Jéricho, ramenant les vents du large à ses lèvres épaisses, et les nègres exaltés sautent comme les voutousies. De l'autre côté du fleuve, un écho pleure, dans les poumons brûlés des métardis agonisants de trompettes. Cette plainte inachevée, Armstrong la portera à travers les nuits du monde. Il incendie Chicago à coups de pieds sucrés. Toutes les femmes du Vendôme hurlent de la possession noire sous les gestes de l'homme léopard. Et Jean Cocteau martèle son mal au bœuf sur le toit. Louis Armstrong fleurit l'ombre de ses mouchoirs. Le Palladium de Londres craque. Le concert de Guébeau chancelle à Amsterdam. Le Palais des Beaux-Arts s'agenouille à Bruxelles. Europe, à Caen, le grand incendie du bazar de la cruauté. Voici les premiers boulets rouges de l'Afrique. Saint Louis Armstrong joue le West End Blues. Quelle femme fleurit dans les rhododendrons sous la pluie aux clairières de Louisiane. Déjà le bruit du vent meurt dans les saxophones. Sous quel baiser nocturne ont noirci les sureaux. Des têtes d'astrakhan sentent battre la jungle. Ils portent l'horizon d'un rythme maléfique et leurs lèvres sont bleues à force de nuit blanche. Quel souvenir de fille aux épaules cuivrées. Quelle laiteuse ardeur d'organes caressés, quel nénuphar de muqueuse camélia, quelle herbe ensorcelée d'épeautres et de métis ressurgit au poivron râpeux des contretemps, à l'heure où le Congo lâche ses chiens de cuivre, vent du large, aux forêts vierges des pamoisons. Maman est morte. Adieu, siffle Peter Bockage. Pas redoublé d'Afrique au coin des beaux quartiers, et soudain, accroché dans l'épave d'un thème de ses doigts au bourgeon d'argent du soprano, Sidney Bechet coule de transe et balbutie sa peine de créole au virage des stompes. Les négresses qui fument la pipe défaillent, les carteronnes répartissent les mains chaudes, l'air noue des couples bleus d'iode et de broussailles. Sidney gonfle ses joues aux écluses de l'aube. De sa lèvre à ses mains, une lumière gicle et lâche tous les ballons captifs du sang rouge. Sidney, Sidney, toute la nuit lourde de fleurs, toutes les chères couleurs d'asperges et d'aubergines, toute l'eau qui s'égare de mare et de pluie, tout le parfum des débardeurs et des viols, tout le dialecte félin des lucioles, le bruit qui fuit au ruissellement de la suie. Sidney, Sidney, Sidney s'enfuit au patin de l'alcool, et des frissons s'attardent aux belles de nuit qui répètent des rutes de rythme et de paroles. Gonna give nobody none of this tale.
Le goût des voyages, c'est celui de Blaise Cendrars. Le goût des sports, de la modernité, du jazz, de la boxe, c'est celui de Cocteau. Ce sont des gens, Blaise Cendrars et Cocteau, que vous avez connus. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
J'ai connu Cendrars quand j'étais encore étudiant à l'université de Bruxelles, c'est-à-dire vers 1920 ou 21. Il vint nous donner une conférence à Bruxelles qui fit une sensation parce qu'il parla d'Apollinaire qui avait écrit un poème sur les 10 000 vierges et il disait « Il y a là-dedans une scène extraordinaire où on voit Sarah Bernhardt violée sur les marchepieds de l'Orient Express immédiatement. On voyait les dames qui partaient avec les demoiselles. » Mais c'est devenu un ami, Sandrard. Je l'ai revu très très souvent. C'était un ami très cher. C'est même moi qui ai essayé de démontrer une chose qui est importante en poésie. J'ai cru que Apollinaire avait été inspiré par Sandrard. Et qu'un poème d'Apollinaire qui s'appelle « Zone » avait été inspiré par les Pâques à New York de Sandrard. Ça a été très discuté. Les uns disent oui, les uns disent non. Mais quoi qu'il en soit, je suis certain que l'un et l'autre, il y a eu une forme d'interpénétration. Et d'ailleurs, ça n'enlève pas l'amour que je puis avoir pour Apollinaire. Je crois peut-être d'ailleurs que le poème de Zone est plus beau que les Pâques à New York de Sandrard.
Apollinaire. Un air mourait dans la tourelle du côté de l'enfance où l'on fait le printemps. L'ombre allaitait nos deux enfances naturelles. Et nous comptions les mots plus avares qu'avant. Les labours du couchant ouvraient des socs de flammes qui s'envolaient, vierges, des colombiers tremblants, d'ivres cabriolets. L'organ dit bleu des dames descendait en aube pâle de dessous blanc. Ainsi, tu transcrivais en substance d'orage les aventures de tes baisers hasardeux. Et j'entendais dormir dans la paix des villages les coqs désespérés de ne rimer qu'à deux. Je revenais des féminines transhumances portant au fond des mots l'échymose du soir pour ne guérir jamais des blessures d'enfance qui font l'ombre plus claire au bord de matin noir. Poète, une aube bleue illuminait l'Europe. Et si notre insomnie eut son rêve d'amour, c'est qu'au détour du vent, pareils à Pénélope, nous démaillions la nuit nos poèmes du jour.
Et alors après, Cocteau. J'ai connu Cocteau depuis très longtemps, car dès le début où j'ai publié mon livre sur le jazz, c'est-à-dire vers 1930, j'ai été en rapport avec lui. Il habitait à ce moment-là un petit hôtel derrière la Madeleine. Et nous nous retrouvions au Bœuf sur le Toit, où il y avait un musicien qui s'appelait Vance, et il y avait alors aussi Wiener et un autre pianiste dont je cherche le nom, et qui était un Belge, un bonhomme énorme, que j'ai retrouvé en Belgique après coup. Et puis je voyais très souvent à ce moment-là Cocteau. Mais je ne le voyais seulement que sur le rapport du jazz. Et puis après j'ai écrit un livre sur les rapports de Verlaine et de Rimbaud, pour expliquer la poésie de Verlaine et celle de Rimbaud. Pas toute la poésie, mais j'ai dit que de temps en temps, il fallait tenir compte de leurs relations entre eux. Et il m'a écrit à ce moment-là, comme André Gide m'avait écrit pour me remercier, et je suis devenu très ami avec lui. Aussi, quand il venait à Bruxelles, nous passions deux ou trois jours ensemble, et j'ai moi-même été passé certaines journées mémorables, ou à Milly-la-Forêt, ou dans le Midi.
Robert Goffin, vous me dites que vous avez parlé des rapports de Verlaine et de Rimbaud. Non seulement vous êtes un poète, mais vous êtes également un exégète de la poésie. Je voudrais que vous me parliez de votre conception de la poésie.
J'aime trouver une ligne générale, un sujet que je suis avec éventuellement des étincelles qui peuvent être des étincelles surréalistes ou des images ou des métaphores, mais avec aussi beaucoup de travail sur la question de la limpidité du vers, sur la question de la fluidité du vers, etc. D'ailleurs, on considère que dans ma poésie, il y a deux classes. Il y a la classe traditionnelle, qui sont tous mes poèmes. Et puis alors, il y a les poèmes libérés, où je raconte des événements que j'appelle des faits divers, pour montrer que je tâche de donner à ça un événement presque de scandale. Je cherche le fil bon conducteur, qui est assez proche de celui qu'on trouve dans les journaux hebdomadaires à gros tirage, avec les héroïnes, les stars, les vedettes, les crimes, etc. Je suis assez attiré par tout ce qui fait cette notion d'une poésie qui est le fantastique ou l'insolite. Mais j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que j'avais aussi très bien connu Éluard. Éluard était un de mes très très grands amis. J'ai même assisté à une chose qui est assez émouvante. J'étais le dernier qui ait parlé à sa femme Nouche. J'étais à Paris un jour et comme je le faisais toujours, il habitait rue Max Dormoy. Je téléphone pour voir Paul. Et c'est Nouche qui me répond en me disant « Éluard est en Suisse, il est très malade, tu ne le verras pas. » Mais elle me dit « Viens me voir. » Je lui dis non, non, je ne le peux pas, je reviendrai plus tôt dans 15 jours. Je continue donc mon séjour à Paris. Et deux ou trois jours après, je vais déjeuner dans un petit restaurant de la rue des Graviers, où j'avais l'habitude d'aller. Je finis mon repas vers 2 heures. Je sors et qui vois-je arriver ? Picasso, sa femme, René Char, sa femme, Marcenac, le directeur des lettres françaises et deux ou trois autres amis d'Éluard. Et derrière, Éluard, pâle, blanc, livide. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne sais pas ? La femme d'Éluard est morte.
Louise, Margaret, Ferral, Ariette, Sarah, Florence, toute nue, Margaret, toutes, Thelma, Paul Éluard. Toutes les belles daubes à brûler les minuits, celle rose en dedans ainsi qu'une blessure, et l'autre qui fermait les colombes du bruit, toutes uniquement vêtues de chevelure. La rousse qui buvait la foudre du plaisir, Ferral râlante de son désir satanique, Sarah dont l'onde était transparente à saisir, et toutes blanches comme un tulipier d'Amérique. Je vous revois au bouquet rouge du moulin, chaste danseuse phosphorescente de soufre, cible saoule de grève, de saule et de saint, mêlant une pudeur de cime au vent du gouffre. Mary chaude, Gertrude pâle aux trous de ciel qui revivent encore au Far West agricole, Florence toute nue comme un péché mortel, faible d'avoir frôlé la flamme d'être folle. Celui qui vous hantait des mots de son espoir a quitté le poème où subsistaient vos ombres. Il y a si longtemps dans le passé tout noir, et c'était hier pourtant que vos yeux étaient sombres. Ah, fallait-il par vous savoir que se fanaient les fleurs, les lèvres, les femmes et les poètes. Vous aviez des tendresses d'ambre et de forêt qui firent ce que vous fûtes et que vous êtes. Pouvez-vous n'être plus que la cendre du feu? Des vieilles laides dans les églises baptistes, des psaumes de lessive au bord des fleuves bleus, lourdes de déchéance et veuves d'améthyste. Non, Ferral blanchisseuse dans l'Alabama, et Ruth, fille pour roi qui travaille à journée, toutes l'épouse d'un croque-mort du Nebraska, et Thelma devenue une prostituée. Ah, ne plus être belle après avoir charmé les météores qui brûlaient place Pigalle, la centaurée des cœurs et l'herbe des baisers, et pleurer la lumière éteinte des étoiles. C'est tout cela qui touche un peu chaque matin, car c'est la chute et non l'amour qui s'éternise. Et je rêve aux poètes morts du tabarin, qui fait ressusciter pour moi 20 ombres grises, anonymes d'ébène et semblables de lait, par les frigides fleurs d'un lumineux arcane, les mots diront, de l'infrarouge au violet, le magique arc-en-ciel des femmes qui se fanent. C'était le temps des floraisons et des amours. L'acacia tendait à l'ombre un sein de neige. Que n'avez-vous offert aux belles sans retour? Vos seins d'acacia à nos mains sacrilèges.
J'étais avec Éluard et j'ai été d'ailleurs avec Alain Trutat écouter Claude Luther au L'Orientais. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Boris Vian.
Boris Vian qui, comme vous, était un amoureux du jazz.
J'ai encore connu Boris Vian jouant de la trompette. Et aimant le Dixieland et jouant selon la manière de Claude Luther. Et puis après, il avait évolué. Et c'est avec lui que nous avons publié, pour la première fois, Jazz 47 qui est apparu chez Pierre Segers, avec mon article sur les Lorientais et des articles sur le jazz, sur le commencement du jazz. C'était une très très belle revue, c'est dommage qu'elle n'ait pas continué. Boris Vian était un grand ami à ce moment. Il avait épousé une jeune femme qui s'appelait L'Église, je crois. Et je me souviens même qu'il est revenu passer un week-end avec moi au lac de Genneval, où j'habite toujours. Et il est resté là-bas avec sa femme. Il était venu avec sa voiture de course et il est reparti ainsi, après que nous ayons beaucoup discuté de poésie et de jazz.
Et je crois que vous êtes également intéressé beaucoup à la science. Alors quel rapport, car on est... Il y a maintenant un rapport entre la science et la poésie qui est certain.
Oui, ben ça, pour ce qui concerne le rapport de la science et de la poésie, voici. J'ai publié 3 livres aux éditions Gallimard, l'un sur les araignées, l'un sur les rats et l'autre sur les anguilles. Eh bien, c'est très bizarre, je suis arrivé à écrire des livres sur ces animaux parce que je voulais d'abord trouver la connaissance qui me permette d'écrire quelques vers, par exemple, sur les anguilles. Et ainsi, j'ai dépassé mon sujet, je suis arrivé à écrire le livre, qui a eu d'ailleurs de nombreuses éditions et qui est introuvable actuellement. Eh bien, j'aime beaucoup toutes ces questions de la science. J'aime beaucoup toutes les questions de l'évolution du monde, de la naissance, du monde et de la vie. Et je viens d'ailleurs d'écrire, il y a un an, un livre qui s'appelle « S'habiller par une cosmogonie », qui est toute l'histoire de l'évolution du monde. Et j'ai dépeint là-dedans des phénomènes qui sont des phénomènes scientifiques. L'évolution, par exemple, des baleines, comment les baleines sont arrivées à ne plus être des poissons, qu'elles ont gardé des poumons, qu'elles n'avaient plus de branchies, etc., etc. Mais cela inspirait ma poésie.
Robert Goffin, vous venez de faire paraître un dernier livre qui s'appelle « Versant noir ».
Oui.
Et ce titre est un titre...
assez triste.
Assez triste, déjà, en soi. Alors, je voudrais savoir ce que contient...
Eh bien, voici la première partie de ce livre qui paraît chez Flammarion. Et d'anciens poèmes. Et des poèmes un peu variés. Je parle, par exemple, un poème sur le grand Ziegfeld avec les femmes extraordinaires qu'il a connues. J'ai un poème sur la Xardas. J'ai un poème sur la boxe. Alors, j'ai un poème sur le Japon que j'ai visité. J'ai un poème sur le petit village d'Ohain à côté de Waterloo où je suis né. J'ai un poème sur telle ville de l'Amérique du Sud. Vous voyez, c'est une espèce de panorama.
Dans mes villes fantômes aux gris souvenirs, j'ai gardé l'embargo sur de flous paysages où des passantes combustibles au désir survivaient sans bouée à leur vivant naufrage dans une antiquité vieille en quelques saisons. Je revois des dérives de veuves vénales au vent de la revanche ouverte de pardon pour offrir à l'encan leur candeur animale, dispersée aux paratonnerres vespéraux dans les cités agonisantes des rocheuses. Là, replongent encore les chercheurs à sang chaud dans le brasier sans fond d'amantes ténébreuses, se fanant d'un relent d'alcool et de Far West. Avant d'être des épouses millionnaires, montées comme des ballons captifs, grâce au lest de la chair qu'on marchande aux bourses éphémères. Qui sait, sans mort, que j'ai vu les chevaux en fleurs, jalonnant l'avenue au long de la mairie, vers nulle part ailleurs que vers la poésie, quand, dans un seul coup de pique de pauvre mineur, s'allumait l'or charnel d'inaccessibles filles, dont la nuit a repris l'ombre d'une beauté amovible comme une des calcomanies, jusqu'au 9e commandement de la vie. J'ai, dans mon dédale malade de passé, aux souvenirs saignés d'inodores arômes, des filles mortes, comme mes villes fantômes.
Je l'entrevois fils du docteur Ziegfeld, dans un petit hameau de l'Illinois. La vie est fade, et bientôt il lui faut les nuits décapantes de Chicago. Tour à tour, cireur de souliers, valet d'écurie, dentiste en My Coach, il s'exerce à tirer dans les 32 positions classiques du parabellum. Il n'est qu'un gosse quand Buffalo Bill monte sa tente dans la cité des vents et, en aval de la nuit, dans l'auréole d'un chapeau de 4 gallons, montant un Mustang ferré d'or acheté à crédit dans l'Arizona, Bill Cody entre au galop, les mains fleuries de moulinets de revolver. Visant dans un miroir, il fait éclater un œuf sur la tête d'un Indien. Le public hurle quand Cody offre une bourse à quiconque en fera autant. Nul ne répond, sauf l'enfant de 17 ans, Florent Ziegfeld, qui fait cible. Et ce soir-là, le jeune aventurier est engagé comme tireur d'élite à la manque, près des charmeurs de serpents, des avaleurs de sabres et de la femme à barbe. Il est déjà au 7e ciel quand le docteur retrouve son fils prodigue, citoyen d'un royaume parfumé à l'acétylène et à l'urine de fauve. En 1888, à Sacramento, il est l'impressario d'un homme canon et fait la parade en chapeau melon pour les filles au poivre qui lui sourient. Puis il part pour l'Europe avant d'épouser Anna Held, le pied dans l'étrier. Il gagne 2 millions à Monte-Carlo et doit rentrer avec les émigrants. Puis devient le prestidigitateur en décolletage de chiffons et de dentelles. Le premier, il sait charnellement jusqu'où il ne peut pas découdre. Et les purs sangs de la petite secousse fleurissent par le haut ou par le bas. Que dis-je sans femme ? En 1931, à l'heure sombre de la chute à pic, il pense aux 3000 corps brûlants de ses nuits incendiées. Il les revoit tels des phares dans des sargasses de soie et de parfum. Le voici ordonnateur des grandes orgues du prurite pour puritain. Il n'est plus qu'une vedette qui ensorcelle les collégiennes fiévreuses. Il mourra sans un centime, mais Anna Held a des fleuves d'hermine. Il a compris que ce qui compte dans la vie, c'est le capitalisme de l'amour fou.
Et puis alors j'arrive à ce jour fatal d'août 1965 où ma femme est morte. Et ça a créé au fond de moi-même une espèce de rupture qui fait que j'ai écrit certains poèmes sur la mort parce que je cherche, je m'interroge, je me questionne sur une série de formes de présence, d'absence, d'au-delà même, etc., etc. Et alors, vous verrez par exemple qu'un des derniers poèmes du livre est un poème qu'on peut presque diviser en 3 parties. Je suis retourné au mois de juin de 1966, passé un mois à New York où j'étais resté 5 ans pendant la guerre, et j'ai essayé de retrouver mon passé. Et je n'ai plus retrouvé que des trous, des chantiers, des terrains vagues, là où il y avait quelque chose qui existait. Par exemple, et je le raconte, je suis arrivé là où j'allais entendre le Dixieland chez Nix. Et c'était changé, c'était plus Nix. Nix était mort. Puis je suis reparti par les métros express jusqu'au bord de l'Hudson, à l'appartement où j'avais habité. La maison avait été abattue, on avait construit un building à côté. Et puis je suis reparti dans Harlem, cette ville où j'ai passé toutes les nuits de mon séjour à New York, où j'allais voir ces nègres. Et j'ai voulu aller au Savoie, où j'ai passé tant de nuits. Eh bien, le Savoie n'existait plus, on avait construit un building. Et c'est le sens de ce poème qui ferme avec une espèce de trinité funéraire toute une part de ma vie. Ce sont ces choses-là que j'ai décrites.
Dans New York de la nuit, au coin de la 10e rue, dans la chambre de chauffe où Nick Rongetti tisonnait le Dixieland, j'ai passé les heures les plus décapantes de mon grand engagement. À côté, chez Julius, où des écriteaux défendaient de cracher au-dessus du comptoir, j'allais souvent m'asseoir avec les musiciens radioactifs qui, sortis du jazz, ne parlaient que de contretemps et d'improvisation. Pif soufflait encore son ambiguïté dans sa clarinette absente. Sidney Bechet, derrière le mur du Jim Crow, pensait à son soprano.
C'est là que pour la première fois, Billie Holiday m'a donné son baiser de camélia. 20 ans déjà, et la paupière de l'oubli s'est déjà refermée. Puis au 3e étage du 72 de la Riverside Drive, chaque jour, cher malade d'aurore, ton sourire m'illuminait. Nous regardions au loin les publicités au néon susciter la nuit totale. Au bord du fleuve où coulaient les fanales des bateaux de plaisance, nous passions l'été dans les courants d'air des fenêtres ouvertes. Et parfois, en quelques heures, le parc était ouvert de printemps. Nous étions poinçonnés par une incessante file d'auto sur la highway. C'est là que tu m'as donné 5 ans de tous les battements de ton cœur. Nous luttions pour vivre, et nous fûmes heureux, la main dans la main. Et toi, Louis Armstrong, au Savoy, dans ce bal à la dynamite de Harlem, où nous bûmes les Pepsi-Cola du swing aux tables étroites, souviens-toi, comme des bootleggers, nous apportions notre rhum. Parfois, les Savoy sultans ou Benny Carter déchaînaient la transe. De belles créoles dansaient le Lindy Hop, toutes jambes dehors. Dans une loge, les taxi girls souriaient de leur hublot tout rose. C'est là que j'avais rendez-vous avec le rythme exceptionnel de tous les jours. 20 ans après, sans toi, Suzanne, j'ai revu la capitale du monde, et je me sens le citoyen de cette solitude où nous brûlions tous les deux. Le premier jour, par les métros express qui sentent la cacahuète, je suis retourné au grand pèlerinage de notre vie morte, là où crépitait le Dixieland, où nous vécûmes, où giclait le swing. Il n'y a plus que la trinité funéraire de nos jours qui ne reviendront plus. Sans signe, sans épitaphe, sans que nul sache que nous sommes passés par là. Dans la fournaise chaude de New York où s'allumaient les femmes et les étoiles, dans ce même parfum d'ozone, d'étincelles électriques et de beignets troués, je n'ai plus trouvé que des terrains vagues ou des buildings inconnus. Et je suis resté muet de notre vie, à jamais labouré par la vie qui part. Et ce soir, que j'ai regagné la patrie de la solitude et de la pluie, je suis repassé rue du lac, où nous avons vécu pendant 20 ans. Déjà la pioche des démolisseurs ouvrait la carie de nos jours, et je m'en vais ne traînant derrière moi que ce qui recommence, triste à jamais pour la dernière fois d'avoir fermé à double tour la lourde porte de 20 ans de bonheur qu'il me faudra bien ne plus rouvrir.
Vous venez d'entendre Écrivains étrangers d'expression française, une émission de Jean Paget. Aujourd'hui, Robert Goffin, avec François Perrier, Bernard Noël et Jean Levray. Prise de son, Jean Pantaloni. Montage, Marcel Grenier. Réalisation, Jacques-Adrien Blondeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 25 mars 1967. Vous pouvez la télécharger pendant 1 an et la réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr.